Mon sujet ce matin, mon thème, c'est des réflexions sur la foi. Jean 3, versets 16 et 18, qu'on a chanté tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. De la foi dépend finalement la vie et la mort. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Notre vie présente, mais notre vie éternelle, dépend de, ça, de cette foi. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? C'est quand même une question sur laquelle il faut se pencher, parce que qu'est-ce que ça veut dire croire? C'est quoi la foi? Cette foi qui sauve, cette foi dont j'ai besoin si je veux avoir la vie éternelle, cette foi qui, dans laquelle mon destin éternel repose. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, c'est des mots qui sont tellement courants, on n'y réfléchit même plus tellement. Mais c'est quoi la foi? Alors, je ne sais pas, je vous écoute. Comment vous définiriez la foi? Qu'est-ce que la foi qui sauve?
La confiance en Dieu.
Pardon?
La confiance en Dieu.
La confiance en Dieu, la confiance, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a, le dernier chant qu'on a chanté s'appelle « Oui, je crois ». C'est croire à la vérité, à l'existence de Dieu, croire au nom du Fils unique de Dieu, nous dit le passage, croire à la véracité du message de l'Évangile, croire à cette bonne nouvelle, c'est certainement une composante.
Croire à ce qui est écrit.
Croire à ce qui est écrit.
Quand je vois à la gare ce que c'est affiché Zurich, je crois que si je monte dans le train, je vais arriver à Zurich.
Voilà, ben, croire à ces choses-là, oui. La confiance, on a dit, oui. Un saut vers l'invisible, vers une vision de l'invisible, par exemple.
Et de croire avec la tête,
voilà.
Actuellement, mais aussi
avec juste. Dans un certain sens, si notre salut dépend de la foi, c'est aussi l'acceptation de cette réalité, c'est notre réponse à l'appel de Dieu. Finalement, qu'est-ce que la foi? Puis c'est toutes ces choses. En fait, dans la Bible, il y a une définition de la foi que vous connaissez tous, je suppose, c'est dans Hébreux 11, tout un chapitre qui nous définit la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la ferme conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance, c'est une ferme conviction. Conviction. C'est quand même des termes forts. C'est pas peut-être. Il y a quelque chose de profond dans cette foi qui nous est nécessaire, cette foi qui nous sauve. C'est pas juste intellectuel, c'est pas juste. Qu'est-ce que c'est vraiment?
C'est aussi un don.
C'est un don. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Moi, je me souviens quand j'étais jeune et encore non converti, c'était un de mes grands problèmes. Pour être sauvé, il faut croire. Ça veut dire quoi, croire? Est-ce que je crois suffisamment? Est-ce que cette croyance que j'ai, parce que croire que Jésus existe, croire que ceci, je crois, comme on l'a chanté, je le croyais. Mais à quel point c'est vrai pour moi? Alors, j'ai passé pas mal de temps. J'ai perdu pas mal de temps à essayer de me convaincre toujours plus profondément que ces choses étaient vraies. Travailler à construire ma propre foi, et puis à essayer d'ôter tous les doutes, et puis à essayer d'accumuler des certitudes. Ben, je vous dis une chose, ça ne marche pas. Une foi ferme, une assurance. Réfléchissez chacun pour vous-même. Est-ce que vraiment vous avez cette ferme assurance? Aucun doute. Vous savez, on vit dans une société, on vit dans un contexte culturel où tout nous parle, tout nous cherche à nier les réalités de la foi. Que ce soit la littérature, que ce soit l'école, que ce soit les films, que ce soit nos conversations, toute notre culture ignore la foi. On a le sentiment profond que la science explique toutes les choses. C'est des choses qui nous sont tellement dites et redites, ça nous influence. Et je crois qu'il faut reconnaître que ça nous ébranle. Je ne vous connais pas intérieurement, mais moi je sais qu'il m'arrive d'avoir des doutes, de me poser des questions sur la foi, de me poser des questions sur Dieu, sur son existence, de me poser même des questions sur qu'est-ce qui arrive après la mort. Je sais ces choses, mais ce poids culturel qui nous est dessus, il a un impact. Et je ne crois pas qu'on évite ce genre de choses. Ça fait partie de notre réalité. Et je crois que c'est important de savoir confronter ça, d'oser confronter ces réalités, de ne pas essayer de mettre ça sous le tapis, de dire « Ah, mais je crois, puis surtout, il ne faut pas trop que je regarde pour être sûr que ça tient, vous voyez ?» C'était un peu mon attitude quand j'étais jeune. Non, on rencontre des doutes. Notre foi, elle n'a pas, en tout cas ma foi, elle n'a pas cette assurance ferme, cette conviction profonde où il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que fait ça ? Comment je réagis face à cette réalité que je vis? Dans ce chapitre 11 des Hébreux, la première chose qui est dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la foi, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et puis ensuite, dans toute l'histoire, toute la suite de ce chapitre, l'Esprit de Dieu va nous donner des exemples pour qu'on essaye de comprendre ce que ça veut dire, de comprendre ce que cette foi, cette assurance et cette conviction. Chez des hommes, il y a des femmes dans Hébreux 11. Non, il ne semble qu'il y a que des hommes. Ce n'est pas très politiquement correct. Hein. Ah, il y a Rahab. Ouf. Et on voit qu'il y a des gens bien imparfaits. Conviction, assurance, et puis tout ce récit où il y a ces gens bien imparfaits. Mais ce chapitre 11, il se termine, après tout ce raisonnement, par une conclusion. C'est Hébreux 12. Et je vous lis Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tout ce qui était dans le chapitre précédent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve, la course, qui nous est proposé. C'est ce qu'ont fait ces hommes de foi. Ils ont poursuivi la course malgré le fardeau, les questions, les interrogations, les difficultés, et malgré le péché qui nous enveloppe si facilement, ils ont marché la foi, ils ont vécu cette foi. Comment ? Ça se continue. Faisons-le, faisons ceci, en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. D'autres versions disent, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Le français courant dit, gardant les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. La foi, c'est une chose que Jésus fait naître. Jésus fait naître la foi. Et ce n'est pas une indication sur la question qu'on se pose. C'est quoi la foi? Et ça nous conduit à un passage aussi très connu dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Alors la question, qu'est-ce qui est le don de Dieu? Est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est le salut et la foi? Est-ce que... Il y a deux interprétations. Franchement, c'est un verset sur lequel on a énormément discuté. Calvinisme, arminius, c'est le choix qui est défini là. Est-ce que le salut est un don de Dieu? Et la foi, c'est ma réponse, le moyen par lequel je saisis ce salut qui m'est donné. C'est une des façons dont on peut comprendre ce passage. La foi, c'est moi qui saisis ce que Dieu me donne. Et l'autre interprétation, c'est celle de Calvin, la foi aussi est un cadeau de Dieu. Non seulement le salut est un cadeau, mais ma foi même est un cadeau de Dieu. Qui a raison, Arminius ou Calvin? Ou les deux? Eh bien, si Paul, non, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous développe toute cette série d'exemples, c'est peut-être pour aider à répondre à ces questions. Alors, je n'ai pas pris de Bible.
Merci beaucoup.
Par exemple, au verset 8, Abraham, chapitre 11, verset 8, « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. » Dieu appelle, Abraham obéit par la foi. Il a entendu, il fait. C'est sa réponse à ce que Dieu lui dit. Notre exemple, verset 11, toujours Abraham. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même ne pouvait avoir d'enfant. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Une promesse, ok? Et puis Abraham répond par la foi. Verset 4, Abel. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à sa foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par la foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Là, c'est un peu différent. Pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, pas celui de Caïn? Les deux ont fait la même chose. Est-ce qu'ils ont reçu un ordre? Fais ceci, fais ceci, offre des agneaux et n'offre pas des légumes. Non. C'est par la foi que cet homme fait un acte gratuit. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Verset 23, les parents de Moïse. Non, 23. Ah oui, pardon, chapitre 10, ça ne veut pas aller. Par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Ils virent que c'était un bel enfant et n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Aucun ordre de Dieu. Ils voient cet enfant, ils le trouvent beau et ils entrent dans quelque chose pour sauver cet enfant. Et la Bible dit « par la foi ». Pourquoi cet acte est destiné, est dit par la foi? Ce n'est pas une réponse, voyez, il y a quelque chose de différent. Je me suis posé ces questions et c'est pour ça que je suis revenu sur ce chapitre 3 de Jean qu'on a lu au début. Dieu, Jean 3, 16, hein, c'était « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, il vient à la suite de cette discussion que Jésus a avec Nicodème. Tout un partage qu'ils ont les deux. Et je vous lis ce partage, Jean 3 à 5. Jésus répondit à Nicodème, « en vérité, je te dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, ces deux passages sont très parallèles. Le deuxième, il y a un but, enfin, le deuxième, dans le sens, Jean 3, 16, il y a un but, c'est la vie éternelle. Il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de la foi, c'est finalement d'arriver à la vie éternelle. Dans le passage au début des versets 3 à 5, le but, c'est le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. vie éternelle, royaume de Dieu. C'est des choses qui sont un peu équivalentes. Je n'entre pas dans les détails. Dans le passage de Jean 3, 16, le chemin pour entrer, le moyen d'accès, c'est croire. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Dans la première partie, pour entrer dans ce royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, plus exactement, le royaume de Dieu, il faut le voir et il faut y entrer. Ce qui veut dire, j'espère que je suis clair, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Pour avoir la vie éternelle, il y a un moyen, c'est la foi. Pour être existant, vivre cette vie éternelle ou vivre le royaume de Dieu, eh bien, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut le voir et il faut y entrer. Et voir et entrer, c'est peut-être une des bonnes définitions de la foi. Croire, c'est une révélation, mais c'est aussi un acte. Il y a aussi un mouvement. Croire, voir et entrer. Ou croire. Et comment peut-on voir le royaume de Dieu? Comment peut-on entrer dans le royaume de Dieu? Bien, Jésus dit, c'est impossible. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans ce royaume de Dieu naturellement. Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître d'eau et d'esprit. C'est tellement profond notre incapacité d'entrer, c'est tellement profond notre capacité de voir les choses qu'on a besoin d'une quelque chose de miraculeux, on a besoin d'une nouvelle naissance, on a besoin d'un changement total. Alors, Jésus, il n'explique pas comment on croit, mais il explique comment on peut voir et entrer. Et on ne peut voir et entrer que parce que Dieu, Jésus, donne une nouvelle naissance. Et vous ne pouvez croire. Entrer, tous ces termes se rejoignent sans une intervention miraculeuse de Dieu, sans une nouvelle naissance. Vous ne croirez pas, vous n'entrerez pas, la foi n'existera pas sans un préliminaire, quelque chose qui vient avant même la réponse. C'est Dieu qui crée en nous un homme nouveau, quelque chose de tout différent. Vous voyez? C'est pas pour naître de nouveau, alors je crois. Je saisis cette vie. Non, c'est pour saisir, pour avoir cette foi, j'ai besoin d'une opération miraculeuse, puissante de l'Esprit de Dieu. Impossible autrement. On est de nouveau pour croire. Et on ne croit pas pour naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on est mort, parce que naturellement, on est complètement étranger à tout ce que Dieu veut faire et donner. On est en dehors. Sans une œuvre de Dieu, eh bien, c'est impossible. Les barrières sont totales. Nous, on n'a aucune force pour les faire. On est lié par notre naissance à Adam. On est lié à l'humanité perdue. On est lié à toute une famille, à tout un système, toute une vie qui est simplement morte, sans relation avec Dieu. Et on doit avoir une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça veut dire, au lieu de nous connecter à Adam, à l'homme naturel, elle nous connecte au Christ. Elle nous connecte à Jésus. On est une nouvelle race, dit Paul, explique souvent, en Christ, en Adam. Être en Jésus, être en Christ. Et ça, aucun effort ne pourra le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, que le Saint-Esprit qui peut faire cette opération. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez dans le ventre de votre mère pour naître? Très exactement, rien. Ça ne dépend pas de vous. Mais c'est exactement la même chose pour la nouvelle naissance. C'est une chose qui nous est totalement étrangère. Il faut que Dieu vienne par son esprit pour donner cette naissance. Dans ce passage, il est toujours parlé de nouvelle naissance. On peut aussi traduire très bien une naissance d'en haut. Le terme grec a vraiment les deux sens. C'est une naissance d'en haut. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est absolument pas quelque chose de naturel. Et ça, c'est la réponse, je crois, à notre question. La foi, eh bien, elle est un cadeau de Dieu. La foi, elle vient avec une nouvelle naissance. La foi, c'est quelque chose qui nous est donné. On n'y peut rien, elle nous est donnée. Alors, où est notre responsabilité? Parce qu'on est quand même des êtres responsables, des êtres qui doivent choisir, décider. On est des personnes. Comment comprendre cela? Alors Jésus, il sait que c'est difficile. Donc il dit, toujours dans ce chapitre 3, « Le vent souffle d'où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ainsi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Un conseil, n'essayez pas de comprendre cela. Mais j'ai quand même voulu, pas vous expliquer, mais donner une petite illustration. Alors oui, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Une pièce de monnaie. Elle a quelle forme? Elle est ronde. Une pièce de monnaie, elle est ronde. Maintenant, moi, si je la regarde comme ça, qu'est-ce que je vois? Un rectangle. Je vois un rectangle. C'est un rond ou c'est un rectangle? Essentiellement, si vous voyez une pièce de monnaie, vous direz que c'est un rond. Mais il y a un côté, si on fait, c'est un rectangle. Mais je crois que c'est une bonne illustration de ce phénomène. Ça vient de Dieu, c'est 100% de Dieu, c'est le rond. Mais impliqué là-dedans d'une manière qui est intime, c'est aussi un rectangle. C'est aussi notre responsabilité. On n'arrive pas à démêler les deux choses. Ça fait partie de la nature de la pièce d'être rectangle et d'être rond. Ça fait la partie de la nature même profonde du salut, d'être quelque chose que Dieu fait complètement, mais quelque chose dans lequel on a aussi, d'une manière non compréhensible, une responsabilité. C'est là où j'ai pu aller le plus loin pour vous essayer de faire sentir un peu ce mystère. Notre responsabilité et le fait que Dieu fait les choses, c'est un tout, ça va ensemble, mais c'est essentiellement et d'abord, comme la pièce est essentiellement un rond, c'est d'abord essentiellement quelque chose qui nous vient de Dieu. Et je crois que c'est important de le réaliser. Attendez, je perds mon fil. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Tout ça, c'est des explications, c'est un peu théorique, mais c'est important de sentir ces choses, de voir que les choses sont... Si la Bible nous dit ces choses, c'est parce que c'est important qu'on en ressente quelque chose, qu'on le comprenne. Mais ça doit avoir des conséquences. Si la foi, c'est quelque chose qui vient d'en haut, si c'est quelque chose qui est donné de Dieu, eh bien, on se rend compte, dans ces différents passages, c'est pas quelque chose de ponctuel, la foi. C'est quelque chose qui forme la trame même de nos vies. Vivre par la foi, cette œuvre de Dieu, et puis notre réponse, tout ceci, c'est pas quelque chose de superficiel. Et pour nous, la foi, c'est souvent quelque chose de très superficiel ou de très ponctuel. Une décision courageuse, c'est une décision par la foi, je décide et je fais ça. Ou bien la foi, elle, je sais pas comment dire, on répond à certains appels de Dieu, et ça, c'est la foi. Ou bien, on assiste, ou on est acteur dans quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Eh bien, les guérisons, elles sont liées à la foi. Et la foi, c'est un petit peu des choses spéciales. Or, la foi, c'est pas quelque chose de spécial, c'est vraiment le fondement même de notre existence. Notre vie, elle est par la foi. On doit marcher par la foi, on doit vivre par la foi. C'est là que c'est difficile de l'expliciter. Il n'y a rien dans nos vies qui soit indépendant de cette foi. Pas simplement de cette foi consciente, mais de cette action de Dieu en nous profonde, cette nouvelle vie. Vie et foi, finalement, ça va un peu ensemble. Parce que la foi nous connecte à Dieu. C'est ce que nous disait le passage. gardant les yeux. Ça a une seconde conséquence, peut-être, si c'est quelque chose de si profond, de si inaccessible, de si subtil, eh bien, heureusement, c'est donné. Heureusement, c'est quelque chose que l'Esprit nous donne par Jésus. Heureusement, ce n'est pas quelque chose que je puis forcer. Ce n'est pas quelque chose que je puis construire, comme je faisais quand j'étais jeune. C'est quelque chose de beaucoup trop profond et qui est donné. Je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas l'engendrer. Je dois recevoir ce cadeau. Et ce n'est pas vrai seulement juste pour la nouvelle naissance, cette réception. C'est vrai de toute notre vie. Hébreux 12, verset 2, le passage sur lequel on est parti, gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je ne peux pas davantage marcher par la foi, vivre cette vie de foi qui honore Dieu. Je ne peux pas davantage marcher par la foi que je peux naître à la foi. Ça dépend de Jésus. J'ai marqué, je ne peux pas davantage marcher par la foi que naître à la foi. C'est la nature profonde de l'être humain, c'est la nature profonde de ce qu'on est devant Dieu, qu'on soit dépendant de lui, qu'on ne puisse rien faire où il n'est pas là. Et c'est ça un peu la foi. Je ne peux rien faire sans Dieu, je dépends de Dieu pour ma naissance, je dépends de Dieu ou de Jésus pour ma vie tout entière, du début à la fin. Pas seulement, je n'ai pas simplement de nouveau parce que j'ai à ma conversion rencontré Dieu. Toute ma vie est une rencontre avec Dieu. Et c'est une opération de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Philippiens 2 qui dit « C'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » De la même manière, je suis sauvé par la pure grâce et par le cadeau de Dieu et je marche et je vis dans ce que je pense, dans ce que je veux, dans ce que je fais par la pure grâce de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Alors comment le faire? J'arriverai peut-être à être un peu plus pratique, mais comment fait-on ça, si c'est cette réalité? Comment la reçoit-on? Ben, le passage nous dit, facile, hein, fixer les yeux sur Jésus, ce qui est logique. Si on dépend de Jésus, s'il est là, eh ben, on doit fixer nos regards sur lui, c'est vrai. Et je ne vais pas vous dire comment le faire, c'est toute la vie de l'Église, toutes les prédications, tout ce qu'on vit, essaye de nous apprendre à regarder à Jésus. Toute notre vie nous est un chemin pour voir Jésus, le comprendre mieux, le voir toujours davantage. Mais alors, c'est ce matin j'ai lu ce verset, et je me suis dit, tiens, ça, il faut le dire, ça aide. Il y a dans Marc 9, au verset 24, dans ce récit où Jésus guérit cet épileptique que les disciples n'arrivent pas à guérir. Et il dit au père, « Ok, je vais le faire. » Le père de l'enfant s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et pour moi, ça, c'est peut-être la meilleure recette pour vivre par la foi. Parce que je crois, la foi, elle est là. Mais la foi, ce n'est pas un truc qui est à moi. Viens au secours, Jésus, de mon incrédulité. La foi, c'est le cœur de la foi, c'est de réaliser notre parfaite, notre totale dépendance de Dieu. Je crois, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que c'est quelque chose qui doit entrer en nous. Je dirais que c'est un réflexe presque de vie, parce qu'on croit tellement qu'on est capable de faire une chose ou une autre. Ben non, viens au secours de mon incrédulité. Le cœur de la foi, c'est que dépend de Jésus du bout à d'un temps à un autre de notre vie, toujours. Comment je réponds à ça? Première chose, pour moi, la première réaction face à cette réalité de tout vient de lui, c'est ouf! Ouf! Ouf, ça ne dépend pas de moi. Ouf, j'ai pas à forcer ma foi. Ouf, j'ai pas à On dit, vous avez l'assurance des choses qu'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas à construire cette assurance, cette certitude. Ce n'est pas les miennes, c'est celles que donne Jésus finalement. Ouf! J'irai jusqu'au bout de la course. Je n'ai pas à me faire de soucis pour le futur, pour l'avenir, pour mon salut, même s'il y a des doutes, des choses comme ça. Ça dépend de lui. Ouf! Je suis né de nouveau. C'est une chose qui existe. Ouf! Et ça permet de vivre. Ça permet de vivre, de servir, d'aller de l'avant, de persévérer. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, mais de la grâce de Dieu. Alors, il y a aussi le petit plat, le petit rectangle. Mais c'est tout dépend de Jésus. Si je tiens debout, eh bien c'est uniquement parce que jour après jour, travaillant avec moi, eh bien Dieu me conduit ma vie. Mais ça dépend de lui. Ouf! Franchement, ouf! Quand on se pose des questions, quand on est justement dans toutes sortes de difficultés, dans des choses où on ne sait pas trop comment on peut s'en sortir, réaliser que ben non, je ne peux pas, mais lui peut et veut, dépend de lui, quelles que soient les circonstances. Ouh. Et dans les crises, franchement, déposer, on dit souvent déposer, mais je crois qu'on ne peut pas déposer si on n'a pas réalisé profondément notre impuissance. Puis une deuxième réaction, ma première réaction c'était ouf. Et ma deuxième réaction, c'est merci. Merci, merci, merci. Vous vous rendez compte de l'incroyable générosité de Dieu. Ce qu'il nous donne, ce qu'il fait de nous, l'investissement qu'il fait pour nous. On n'a pas parlé du coût de tout ça, il y a la croix, mais merci. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi? Parce que lui a tout fait. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi? Mais parce que lui s'est donné, parce que lui est généreux avec moi. Il m'a sauvé, je ne méritais rien. Je suis sauvé, un autre ne l'est pas. Ce n'est pas parce que je suis mieux ou différent. C'est le cadeau généreux de Dieu vis-à-vis de moi. Merci, merci, merci. Comment dire merci pour conclure? Ben, je dis au fond de mon cœur, merci Seigneur, merci, merci. Et je crois que si on réfléchit à ces choses, eh ben, ça nous conduit à ça. Mais si on les laisse entrer, et l'Esprit de Dieu veut les rendre vivantes pour nous. Je suis certain de cela. Mais il y a une façon de dire merci. Ben, c'est ce qui est là. Dieu aime ce qui est concret, il aime et il sait qu'on a besoin de choses matérielles, d'avancer. On a besoin du rectangle de mon image. Et bien une partie du rectangle de notre relation avec Dieu, de notre réponse à nous, et bien c'est la Sainte Cène pour dire merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on est, nous, j'espère tous, des objets de cette grâce. On a tous reçu cette foi, un cadeau que Dieu nous a fait. Merci. Eh bien, prenons cette Sainte Cène, prenons ces éléments, en ayant dans notre cœur l'Esprit qui nous dit « Ouf !» et « Merci !» Amen.